Comment tu vas, Martin?
Ça va super bien, toi. J'espère être content de te retrouver.
Ben, merci beaucoup d'accepter de poursuivre la collaboration que tu faisais. Je sais que dans les dernières semaines, là, t'étais un régulier, t'étais comme un des piliers, une des valeurs sûres là, de ce que j'ai compris de ce show-là à 7h30. Là.
Ouais, ben écoute, on essaie de faire de notre mieux aussi. Là. Écoute, on offre notre expertise un petit peu.
Merci beaucoup, Martin, d'être avec nous. Et juste avant qu'on commence par rapport à la Ligue nationale, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir ça ce matin. Je viens de voir la nouvelle que Charles Hudon a signé en Suède avec la formation de Joe Garden sur un contrat de 2 ans jusqu'en 2027. C'est un deuxième passage là, donc pour Charles Hudon en Europe. Il était déjà allé en Suisse il y a quelques années. Et là, ben, à 31 ans, quitte pour l'Europe pour les deux prochaines années au moins avec la Suède. On verra pour la Suède. C'est un gars qui a toujours été capable d'avoir du succès dans la Ligue américaine, un peu dans la Ligue nationale aussi, mais surtout dans la Ligue américaine où il a eu au-dessus de 500 matchs en carrière. Là.
Ouais, ben c'est intéressant également du côté de Charles Hudon. On s'entend qu'à ce statut de sa carrière, c'est disons que ça passe un peu plus par l'Europe. Je pense que tu as des meilleures conditions peut-être un petit peu là-bas, c'est des conditions plus stables, peut-être un niveau meilleur salaire à quelque part. Donc, je pense que pour lui, ça l'aide beaucoup. Et tu sais, c'est un peu une drôle de circonstance, mais tu sais, il se retrouve avec Joe Garden. Joe Garden, qui revient dans la SHL, la Ligue élite suédoise pour cette saison. On va jouer notamment avec des Anton Frondell et des Victor Eklund, là, deux choix de premier tour pour le repêchage 2025. Donc, je pense que c'est un beau mandat pour lui. Tu sais, Joe Garden, c'est l'équipe de Stockholm, c'est l'équipe de la capitale suédoise, donc un très, très bel endroit pour jouer au hockey. Puis je suis convaincu que c'est ça. On va avoir de belles conditions pour Charles Hudon. Donc non, c'est une belle étape pour lui. Puis je suis quand même assez confiant de le voir exceller là-bas. Là.
Si on revient du côté de la Ligue nationale, Martin, Alexis, on a parlé dans les bulletins d'information depuis le début de l'émission, mais Capo Caco a évité l'arbitrage parce qu'à ce période-ci de l'été, on surveille de plus en plus qui va aller ou non en arbitrage. Du côté à Montréal, on regarde des gars comme Jaden Struble notamment, on va en reparler. Mais Capo Caco, d'abord, quelle a été ta réaction quand tu as vu ce contrat-là de 3 ans à 4,5 millions avec le Kraken de Seattle? On se demande un peu quel genre de Capo Caco on va avoir parce que c'est un gars qui a été un peu en demi-teinte depuis le début de sa carrière. Là.
Ouais, je pense que c'est un bon contrat quand même pour le Kraken de Seattle. C'est évident que là, lui, de son côté, tu vas te gratter un petit peu la tête de dire est-ce que c'est lui, est-ce que c'est le Caco des Rangers qu'on va avoir ou c'est le Caco du Kraken. En même temps, je regarde un peu le contrat qu'on lui a donné. Il faut que tu regardes les comparables. Donc, on lui a donné 4 525 000 $. Donc, tu regardes les contrats un peu que se sont donnés dans les dernières semaines. T'as un Morgan Frost du côté des Flames de Calgary qui a obtenu 4 375 000 $ par saison. C'est un gars qui a obtenu 37 points en 81 matchs. C'est quelqu'un qui a signé un contrat de 2 ans. Un autre contrat comme ça, Dmitry Voronkov, lui, par contre, va se retrouver joueur autonome, encore une fois, avec compensation à la fin de son contrat. C'est un contrat de 2 ans et d'environ 4 175 000 $. Mais, tu sais, Voronkov, donc, tu sais, oui, il semble meilleur. Oui, il a obtenu une saison de 47 points. Mais c'est ça, là. Tu sais, je pense que la situation du contrat n'est pas la même. Et dans le cas de Caco, au moins, ce qu'on retient, c'est que il est en mesure d'offrir de meilleures statistiques. C'est quelqu'un qui a joué un peu plus là-bas.
Les 30 points qu'il a obtenus cette année vont, je dirais pas lui avoir donné ce contrat-là, mais pas loin quand même, parce qu'il a bien terminé avec Seattle après avoir été échangé. Là.
Ouais, ben c'est ça. Je pense que de son côté, Capo Caco, c'est quelqu'un qui a quand même un bon rôle là, au sein du top 6, je dirais même du premier trio. Lui joue avec Matthew Beniers et avec Jaden Schwartz. De ce que j'ai pu voir, c'est quelqu'un qui a fait un peu plus de constance, ce qui a tout le temps été son problème, lui, depuis le début de sa carrière dans la LNH. Lorsqu'il est capable de fournir un effort constant, c'est un gros bonhomme, il est quand même assez physique, capable de bien protéger la rondelle le long des rampes, mais ça arrive pas tous les matchs. Et ce que j'ai pu voir, c'est que là, au moins, avec un Schwartz et un Beniers, deux gars qui sont quand même intenses, qui ont quand même des bons coups de patin et tout ça, ça s'est mieux passé. Donc, tu sais, je dirais, si tu regardes un contrat d'un gars de deuxième trio, d'obtenir environ 4 500 000 $ environ par saison, ça entre à peu près dans la catégorie des contrats que tu peux donner pour un joueur de entre guillemets, deuxième trio, même si toujours sur le premier. Là. Donc, je pense que c'est correct. Je pense que c'est pas mal dans les eaux que tu peux t'attendre là, pour un Capo Caco. Là.
Puis justement, Martin, avec cette adaptation-là et voir à quel point justement les joueurs essaient d'éviter l'arbitrage pour avoir une situation un peu plus stable, si tu veux. C'est quoi tes prédictions pour Jaden Struba? Est-ce que tu penses que justement le fait qu'il y ait un arbitrage, ça va avoir un impact sur le début de sa saison et comment il va entrevoir son début de saison?
Moi, je pense que Jaylen Strobel ne se rendra pas en arbitrage. Je pense que, tu sais, évidemment, l'arbitrage, on va toujours l'utiliser de la façon suivante, c'est que tu t'assures d'avoir un contrat. Tu t'assures d'être là pour le camp d'entraînement. T'as pas nécessairement de distraction à dire « Est-ce que je vais débarquer à la deuxième semaine du camp? » Là, t'es en retard sur tout le monde. T'es peut-être moins là au niveau forme physique. T'es peut-être moins là au niveau synchronisme et tout ça. Je pense que c'est surtout là que ça l'assure. Et je pense que le cas de Jaylen Strobel, on reparlera d'un autre joueur un peu plus tard, mais c'est moi un peu inquiétant parce que, tu sais, c'est pas quelqu'un, on s'entend, Jaylen Strobel, c'est quelqu'un qui est à peu près sixième, septième défenseur. On peut pas commencer à se dire, je vais cibler, par exemple, 2 millions de dollars. Je pense que c'est une question de milliers de dollars. On voit qu'il s'entraîne à Brossard depuis quelques jours. Donc, tu sais, je pense que c'est pas un problème. C'est une question de formalité. Je pense que quelques jours avant la date d'arbitrage, je serais même pas surpris de voir qu'un Strobel va s'entendre environ à 1 million ou 1 million 100 000 $, quelque chose comme ça. Tu sais, il n'a pas assez accompli en ce moment dans sa carrière pour aller dire « je veux plus ».
Je comprends.
Deux cas sur lesquels je veux m'attarder aussi avec toi, Martin, avant qu'on se laisse ce matin. Nick Robertson, c'en est un autre qui pourrait avoir la possibilité d'aller en arbitrage au cours des prochains jours. Et lui aussi fait partie des cas qu'on pourrait qualifier de cas intéressants avec les Maple Leafs de Toronto. 22 points cette année en 69 matchs avec les Maple Leafs.
Ouais, celle-là est très intéressante, Jasmin, parce que si tu regardes Nick Robertson, là, premièrement, je rappelle l'an dernier, c'est quelqu'un qui avait demandé une transaction. Déjà, clairement, c'était l'homme de Carl Dubus. Et lorsque Carl Dubus s'est quitté, il n'a pas été chanceux, Nick Robertson. C'est quelqu'un qui a beaucoup été blessé pendant que Dubus était en poste, donc n'a jamais été capable de se faire valoir. Je sais pas si tu te souviens un peu, Jasmin, mais à 19 ans, c'était taillé une place avec les Leafs. Finalement, elle s'était retrouvée dans la Ligue américaine parce que on était dans la situation de COVID-19, la OHL ne jouait pas et tout ça.
Ouais.
Mais là, mon point, c'est que depuis que c'est Brad Treliving qui est directeur général, il n'a jamais eu vraiment sa place. Là, il a été en mesure d'éviter les blessures, mais pas capable d'obtenir des statistiques sur un point de vue régulier. Et là, ce qu'on a fait depuis le début de l'été chez les Maple Leafs, c'est qu'on a voulu se grossir. On est allé chercher Nicolas Roy, qui est 6 pieds 4 pouces. On est allé chercher Dakota Joshua, qui est 6 pieds 3 pouces. T'as Michael Pezzetta, qui est peut-être un peu plus petit, mais qui va t'amener quand même de l'intensité comme joueur de soutien et tout ça. Mon point, c'est que tu regardes un peu la formation des Maple Leafs. Tu ajoutes des Bobby McMahon, tu ajoutes des Scott Laughton. Il n'y a pas de place pour Nick Robertson. Il y a déjà des problèmes d'entente avec l'équipe. Il avait demandé une transaction l'an dernier. Et là, tu as ce fameux dossier d'arbitrage-là qui traîne et qui traîne en longueur. Moi, ce que je m'attends, c'est que peut-être que le contrat pourrait simplement te mettre la table pour une transaction. Il y a des rumeurs chez les Maple Leafs qu'on voudrait un attaquant top 6. Moi, personnellement, je pense qu'on n'a pas remplacé Mitch Marner. Donc, est-ce que tu peux concocter quelque chose avec Nick Robertson et, je sais pas, je dis des noms comme ça, est-ce que tu peux prendre Easton Cowan, le choix de premier tour des Maple Leafs? Est-ce que tu peux prendre Ben Denford, des choix de premier tour, prendre quelque chose et aller te chercher quelque chose? Je vois tout simplement pas de place pour Nick Robertson et clairement, à 5 pieds 9 pouces, c'est pas le préféré de l'état-major. Donc lui, je surveillerais ce dossier-là. Je pense que je serais très surpris qu'il commence la saison avec les Maple Leafs.
Là. Dans le cas d'Easton Cowan, on n'a pas nécessairement une grosse banque d'espoir au niveau des Maple Leafs. Alors, je sais pas si on va vouloir accepter d'échanger l'un des rares gros espoirs, des gros noms qu'on a là, dans le pipeline, si tu me permets l'expression quand même. Alors, Easton Cowan, en plus, un gars de l'Ontario, là, un gars pas nécessairement de Toronto comme tel, mais qui vient de l'Ontario. Lui, on verra pour Easton Cowan. Tu parles de joueurs de petite taille, Martin. Ça m'amène aussi sur un autre cas, celui de Marco Rossi. On sait que lorsque les joueurs ont officiellement la demande d'arbitrage, ça les rend inadmissibles à recevoir une offre style. Ça n'a pas été le cas pour... c'est pas la situation de Marco Rossi. Lui, il est toujours admissible à recevoir une offre hostile. Et on sait que les négociations avec le Wild du Minnesota traînent un peu en longueur. C'est compliqué pour le cas de Marco Rossi. Comment tu vois cette situation-là?
Ouais, je pense que le cas de Marco Rossi, il est très intéressant parce que, bon, évidemment, on a vu ce qui s'est passé avec les Panthers de la Floride, le fait qu'on ait du succès avec des équipes quand même plus grosses au niveau gabarit, au niveau intensité et tout ça. Et puis le plus drôle, c'est que Rossi, c'est un gars intense quand même. Là, c'est un gars de 5 pieds 9 pouces qui joue comme un gars de 6 pieds 1, 6 pieds 2. Mais là, présentement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une dispute majeur. Là, je reprends les propos de Michael Russo, là, journaliste attitré à la couverture du Wild pour The Athletic. Écoute, il dit qu'on s'est pas parlé depuis 3 ou 4 semaines. Là. Il dit qu'il y a une dispute majeure. On se rappellera cet hiver, on lui avait offert 5 ans et 5 millions de dollars, ce qui honnêtement, selon moi, est beaucoup trop peu pour un joueur qui a quand même obtenu 60 points la saison dernière, qui était même...
Je pense que c'est son gabarit qui fait peur un peu pour s'engager avec lui sur un 8 ans et plus cher, là.
Ouais, mais c'est là que c'est intéressant, Jasmin, c'est que là, présentement, le Wild, il y a un peu un bras de fer. Là, on se dit un peu, ben écoute, dans le clan Rossi, nous autres, on t'en donnera clairement pas au-delà de 6 millions de dollars. Le clan de Rossi, lui, se compare à des contrats comme Gabriel Vilardi, qui a obtenu 7 millions de dollars par saison. Tu te compares à Matt Coronato, qui lui a 5 millions 500 000 dollars. Donc, on se compare vraiment à ces dossiers-là, mais du côté du Wild, on se dit, ben écoute, on va tirer la sauce le plus possible. On va te laisser tenter un peu de... Espère voir si tu vas obtenir une offre hostile. Mais là, le problème un peu, c'est là que la situation des Panthers est intéressante, c'est ça. Est-ce que tu veux vraiment un centre de 5 pieds 9 pouces au sein de ton top 6? Et là, c'est là que je pense qu'un gars comme Rossi, malheureusement, ça baisse sa valeur. Et tu regardes un peu, à un moment donné, Bill Guérin l'a offert... En plus de d'autres choses, dans une transaction pour JJ Kepeterka, et on s'est tourné vers Michael Kesselring et Josh Doan. Donc, tu vois que ce dossier-là, premièrement, ça va être compliqué, c'est pas sur le point de se régler, et j'ai hâte de voir, parce que c'est peut-être une première, un joueur de plus petit gabarit qui est au centre, qui est très bon au niveau statistique, mais que tout le monde a des doutes quand même. Il faut pas oublier que Rossi a quand même terminé la saison en série là, sur le quatrième trio. Donc, on dirait que ça incite certains DG à se gratter la tête.
Ouais, 60 points en 82 matchs en saison régulière cette année, mais 3 points en 6 matchs en séries éliminatoires. C'est un des cas les plus énigmatiques, je pense, de cette entre-saison, Marco Rossi, avec le Wild.
Ouais, vraiment, c'est ça. Je suis pas inquiet que ce joueur-là, Marco Rossi, est capable de rebondir. Je le répète, oui, il est 5 pieds 9 pouces, mais il joue pas mal plus gros. C'est un gars qui est excellent défensivement. On parle qu'il a joué sur un quatrième trio, mais moi, je pense que c'était pas une bonne idée de le placer derrière un Ryan Hartman, un Frédéric Gaudreau, des gars comme ça. Moi, je pense que peu importe si c'était avec le Wild ou ailleurs, je pense que c'est quelqu'un qui peut vraiment rebondir et tout ça. Mais c'est vraiment de montrer que la valeur des petits joueurs, et surtout les petits joueurs de centre, est en train de baisser. Tu sais, tu regardes la compensation, si tu fais une offre hostile pour un joueur entre 4 600 000 $ et 7 millions, c'est un choix de premier, de troisième tour, et semble-t-il qu'il n'y a personne qui est prêt à aller jusque-là. Moi, si tu veux mon avis, je pense que le prix pour un Rossi est parfaitement convenable, là, mais c'est à dire à quel point les équipes ont peur dans ces dossiers-là.
Ouais, tout à fait.
Marty, pour finir le bloc, là, mettons que tu as à faire une petite prédiction là, en termes de d'offres hostiles. Est-ce que tu t'attends à quelque chose? On parle beaucoup de Mason McTavish. Je pense pas que c'est l'intention des Ducks de se lancer dans ce derby-là. Est-ce que tu penses qu'il va avoir une offre hostile d'ici quelque peu?
C'est intéressant, Alexis. J'ai l'impression que tu parles de Mason McTavish. C'est peut-être lui le meilleur candidat. Je viens de parler de Rossi, que lui, son gabarit
lui,
peut
coûterait
peut-être
pas mal plus cher que Rossi, j'ai l'impression. Oui.
Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Tu sais, si tu diriges, disons, mais tu sais, je viens de parler de la fourchette entre 4 600 000 $ et 7 millions. Supposons que je vais un peu plus haut, là. De 7 à 9 millions, tu ajoutes un choix de deux. Donc, c'est un choix de premier, de deuxième et de troisième tour. Bon, il n'y a pas une tonne d'équipes qui peuvent offrir ça. Il y a les Canadiens en passant qui sont là-dedans. Mais, c'est parce que McTavish, je pense qu'il est plus rassurant. On sait à quel point c'est un gars qui joue de la bonne façon. Il est robuste. C'est quelqu'un qui est bon défensivement, a montré notamment avec l'équipe Canada Junior à quel point c'est quelqu'un qui peut s'illustrer quand ça compte. C'est quelqu'un qui est malheureux un peu dans son rôle à Anaheim parce qu'il y a notamment un Ryan Strome et un Leo Carlson devant lui. Donc, est-ce qu'une équipe pourrait se dire, écoute, on va aller te donner un contrat qui vaut la peine et qui menote un peu les Ducks? Quoi que les Ducks ont quand même de l'espace sous la masse salariale. C'est ça qui est compliqué, là. Je pense que c'était Pat Verbeek, tu peux très bien dire, écoute, on va égaler sans problème, et je pense que c'est plus McTavish qui est déçu de son rôle avec les Ducks que l'inverse, là. Ouais. Mais s'il y a un gars qui pourrait peut-être recevoir de l'intérêt, c'est peut-être justement McTavish.
Ouais, c'est la période de l'été pour avoir ce genre de truc-là. On dit souvent qu'à la fin du mois de juillet, début du mois d'août, il se passe plus grand-chose dans le hockey. S'il y a des offres hostiles, souvent c'est à cette période-ci. ici là, qu'on les voit arriver. Elles peuvent arriver à tout moment ou à peu près dans l'été, là, mais quand on regarde dans les dernières années, ça arrive souvent vers la fin du mois de juillet comme ça. Martin, c'est un plaisir d'être avec toi. C'est l'une de nos premières collaborations ensemble, mais ça ne sera pas la dernière. On va se revoir à tous les jours. Je veux garder cette habitude-là pour les gens qu'on puisse parler de hockey de la Ligue nationale, parce que c'est un puits sans fin de sujet, la Ligue nationale, en période estivale comme ça quand même. Merci d'être avec nous dans le Club du matin, même avec Jasmin. Je sais que t'as pas le même lien avec moi que celui que t'as avec Anthony Desaulniers, mais je suis content de t'avoir avec moi.
Ouais, quand on parle de sport, Jasmin, j'ai jamais trop de problèmes. Là, ça se passe super bien.
On parlera pas de politique ici, je te confirme. On va rester dans le sport le plus possible.
On pourrait, mais c'est un peu plus positif de parler de hockey.
Ouais, je suis plus dans mon domaine avec le sport quand même. Je me tiens loin du reste. À part quand on parle de films de sport, là, par exemple, j'excelle un petit peu plus. Merci beaucoup, Martin, d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à même heure.
Ouais, y a pas de problème, Jasmin, ça fait plaisir.